Mais pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Farlet. Guillaume, vous êtes né le 29 mars 1974 à Courbevoie. Vous avez vécu à Achères dans les Yvelines, dans un appartement. C'est à l'âge de 4 ans que vous vous installez vers Saint-Denis dans le 77, dans une maison, avec vos parents, votre sœur et vos trois frères. À l'âge de 25 ans, vous partez vivre à Alfortville dans le 94 et vous habitez aujourd'hui dans le 91. Vous commencez la basse à 13 ans, pour ne faire plus que cela vers l'âge de 18 ans. Vous dites avoir beaucoup appris dans le groupe de votre frère Benjamin Avril, dans lequel vous ne faisiez que jouer de la basse. Vous êtes devenu pro vers 21 ans. Là, vous accompagnez divers chanteurs. Vous commencez vraiment à chanter, à jouer de la guitare, pour vous mettre à écrire des chansons en français à l'âge de 23 ans. Votre premier projet s'appelle Naturalibus, sorti en 2007. Pendant tout ce temps, vous travaillez avec divers chanteurs comme Grand Corps Malade, Faudel, Mathieu Chédid, pour ne citer qu'eux. Vous sortez votre premier disque solo en 2011, en guise de bonjour, puis un second, J'attends un événement, en 2016. Pendant tout ce temps, vous êtes bassiste pour Richard Gauthénaire et Michel Fugain. Avant de vous donner la parole, Guillaume, j'aimerais lire à nos auditeurs un extrait du résumé trouvé sur votre site. Guillaume Farlet brouille les pistes, non pas par esprit de contradiction, mais bien plutôt par infidélité chronique aux différentes familles musicales. Showman depuis sa plus tendre enfance, ce sont les premières turbulences amoureuses de ce jeune garçon de 13 ans qui motivent de longues heures passées dans sa chambre. D'autres réécrit des poèmes, lui a choisi de passer ses ardeurs sur une basse électrique. Guillaume déborde d'énergie et de rythme. Ses chansons ne pouvaient en être autrement. Elles tanguent entre premier et second degré, entre gravité et légèreté, entre paillettes et charentaise. Guillaume Farlet est-il un romantique? Non. C'est un sentimental. Il a peur des mots d'amour galvaudés et saillants. Il préfère de loin raconter des histoires réelles, urbaines, sans victimes ni coupables. Voilà ce que l'on trouve, Guillaume, sur votre site. Personnellement, je vous ai rencontré la semaine dernière et il est vrai que j'ai tout de suite été frappée par votre côté si délicieusement perché. Votre façon de chanter, avec autant d'énergie, et toute la mise en scène de votre visage si expressif qui semble expliquer chacun des mots de vos chansons. Guillaume, un tout, qui m'a donné envie d'en savoir bien plus encore. Mais avant de revenir à vos 20 ans, Guillaume, souhaitez-vous dire un mot sur ce qui vient d'être énoncé ?
Ben non, en plus comme vous avez bien balayé toute mon histoire comme ça, j'ai pas grand chose à dire. Non, c'était juste pour dire que mon frère il s'appelle Benjamin et c'était le groupe qui s'appelait Avril.
D'accord.
C'est tout ce que j'ai ajouté.
D'accord.
Voilà. Et donc avec ce groupe là, j'ai découvert les joies du groupe de jeunes quoi. Que quand il fait un concert, il y a 500 personnes dans la salle avec plein de lycéens. Et les premiers enregistrements en studio, les premiers rendez-vous dans les maisons de disques. J'avais 15 ans quoi. J'étais un tout petit choupi avec mes grosses lunettes.
On va revenir justement sur cette adolescence. L'école, c'était pas votre truc ?
Non, pas du tout.
Du tout ?
Non, c'était désastreux.
Donc ça a été tout de suite la musique, que la musique, avec le projet de devenir professionnel ?
Ouais, exactement.
Vous êtes donné tous les moyens pour ?
Bah, même pas, mais j'ai fait ce que j'ai pu par rapport à ce qui était possible dans mes capacités. Mais ce qui est cool, c'est que la musique me l'a rendu au fur et à mesure de... J'ai longtemps pensé que j'étais un escroc, mais en fait, c'est après, dans la vie sociale, qu'on se rend compte que les gens sont plutôt gentils, ouverts, et puis les gens sont polis. Et je me disais, cool, là, ici, ils sont polis avec moi. Génial.
Racontez justement, à 21 ans, donc il est dit dans le résumé de départ, vous devenez professionnel. Alors, quelles ont été les premières ouvertures, un coup de chance ? Racontez comment vous êtes arrivé justement à devenir professionnel.
Bah donc il y avait ce groupe avec mon grand frère qui me faisait faire mes premiers concerts, mes premiers enregistrements en studio, et puis le deal qu'on essayait de trouver dans une maison de disques qui faisait qu'il y avait un éditeur qui voulait nous signer. Bon, finalement ça s'est pas fait, mais c'était quand même quelqu'un qui nous mettait le pied à l'étrier en nous disant les gars, faut travailler comme ci comme ça. Donc moi ça me donnait une lecture quand même de ce que pouvait être la chanson pop dans l'univers de l'industrie du disque. En 89, donc ça a un peu changé depuis, mais enfin voilà, c'est comme ça que je faisais mes armes. Et puis comme mes études, ça se passait pas bien, c'était le début de l'été, je venais d'avoir 18 ans, et j'étais beau comme un enfant. Et Il y avait un chanteur-guitariste anglais qui s'appelle Ian Lynard, qui habitait à Fontainebleau. Il habitait à Thomery, juste à côté de Fontainebleau. Et donc, c'est un copain qui m'a branché avec lui. Et lui, je lui ai caché, à Ian, je lui ai caché que j'étais en cours, que j'étais au lycée. Et donc, quand il m'a branché, il m'a dit « Alors, on va répéter mardi matin, on va répéter jeudi, on va répéter mercredi. » Mais moi, j'étais en cours, c'était impossible. Je me suis dit « Ben, j'ai rien dit. » J'ai dit « Ah, ok, d'accord. » Et j'ai noté toutes les répètes. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma mère « Bon, voilà, ce mec, il va me faire bosser tout l'été, juillet, août. Je vais faire plein de concerts, je vais rentrer du blé en cash. Donc, je voudrais arrêter. » Ma mère, comme elle savait que je souffrais, elle m'a dit « Très bien. » On est allé voir tous les deux le Dirlo de mon lycée. Et le Dirlo, il a dit « Oui, tu veux arrêter ? Mais je sais bien, de toute façon, t'as séché toute l'année pour faire de la musique. » Et il me dit « Si tu veux, tu demandes à ton copain chanteur de signer le rapport de stage parce que tu devrais être en stage tout le dernier mois de l'année. » là. Et je suis allé voir ce chanteur que je connaissais à peine. Je lui ai dit « Tu veux pas signer ce papier, s'il te plaît ? Comme ça, c'est bon, après j'arrête l'école. » Donc c'est grâce à mon ami Yann Lienhardt que j'ai pu arrêter l'école. Comme ça, genre, c'était la fin du mois de mai, il restait un mois d'école, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie professionnelle. Depuis, je suis en vacances. Depuis l'été 92.
Oui, parce que vous faites que ce que vous aimez au quotidien.
Ouais, exactement.
Qu'est-ce que vous écoutiez comme chanteur à l'époque? Quand vous aviez donc 18-20 ans?
Alors là, j'étais en pleine période. Je sortais du jazz rock en fait, parce que j'ai écouté beaucoup de jazz rock quand j'étais adolescent. Et à 18 ans, je me suis remis à écouter plus de chansons, mais toujours musique noire américaine quand même. Donc on était. À ce moment-là, on est dans l'acid jazz. Alors il y a Brand New Heavies, Incognito, des groupes comme Galliano. Il y avait une vague de funk français, un peu jazzy. Pas français, anglais, pardon. De vagues de funk anglais, un peu jazzy, qu'on appelait acid jazz. C'était hyper dans le vent, quoi. Et donc j'adorais ces groupes-là. Et ça donnait... en fait, c'était très imprégné de ce que faisait James Brown dans les années 70, quoi, tous les GBs, etc., des trucs très funky, avec un peu de jazz dedans, quoi. Et ça, j'adorais ça. C'était vraiment ma came du moment. Et à partir de 20-21, je me suis remis à écouter les chansons que j'entendais enfant.
Mais bon, il y a des chansons à texte.
Voilà, comme les trucs que me faisaient écouter mes parents, comme Brassens, Anne Sylvestre et Barbara.
Ce sont des gens qui vous ont influencé?
Ouais, complètement. Et puis surtout, quand j'ai eu cet âge-là, j'ai réécouté les chansons dont les mélodies étaient... je les avais dans le disque dur, les mélodies, je les avais là. C'était genre, j'ai grandi avec ça. Donc, c'était hyper émouvant. Puis le sens des textes qui me venaient, je me disais, mais c'est magnifique. J'en revenais pas. Mais par contre, il y a des chanteurs français que j'ai jamais cessé d'écouter, comme Renaud, Bobby Lapointe, Alain Souchon, Richard Gotainer. Gotainer, j'ai jamais cessé d'écouter, quoi.
Vous êtes un autodidacte au niveau de l'instrument. Vous avez pris des cours au conservatoire?
Non, je ne suis pas allé au conservatoire. J'ai rencontré un prof de basse qui s'appelle Rémi Chaudagne et qui donnait des cours à Melun. Et j'ai pris des cours avec lui quand j'avais 15 ans, jusqu'à 16 et demi, enfin genre un an et demi de cours avec lui. Mais j'étais encore un peu branleur. J'étais pas... Tout le rapport à la lecture et tout ça, tout ce qui touchait au solfège et tout ça m'intéressait pas du tout, du tout. Donc il voyait que j'avançais sur l'instrument comme un malade parce que je jouais toute la journée.
Sur la pratique mais pas sur la théorie.
Ouais, exactement. Et donc même, ce qui est marrant c'est que c'était vraiment le rapport au solfège et à la lecture parce que même théoriquement parlant, je comprenais tout ce qu'il me disait, la composition des accords majeurs, 7, etc. Tout ça pour moi ça avait du sens et j'y trouvais du sens aussi parce que je pratiquais la musique toute la journée. Donc au bout d'un moment je trouvais ça logique. Mais comme je pratiquais pas la lecture du tout, pour moi c'était plutôt... une contrainte, quoi. Donc, à un moment, il m'a quand même botté les fesses en me disant, toi, tu vas aller jouer dans ta chambre. Parce que je bossais pas tout ce qu'il me donnait de bosser. Et des années plus tard, je l'ai retrouvé, ce prof. Parce que j'ai pris quoi? 2 mois de cours avec un autre mec quand j'ai eu 20 ans. Ça m'éclatait pas du tout. Et puis après, je l'ai retrouvé à 20 ans. Rémi Chaudagne, il donnait des cours à Paris. Et là, j'ai pris 2 ans de cours. Et surtout, je pense que par rapport à ce mec-là, que j'admirais un peu, j'avais besoin de lui montrer que j'étais pas le dernier des nuls.
Et que vous aviez la maturité pour, à ce moment-là.
Et puis surtout, voilà, j'avais aussi la chance de me dire, il est possible que je puisse devenir professionnel, il faut que je me mette vraiment toutes les chances de mon côté, quoi. Donc c'est là que j'ai fourni le boulot que je n'avais pas tant fourni avant.
Vous avez tenté un autre instrument?
Non, j'ai joué de la gratte tout de suite en apprenant la basse parce que je voulais chanter. Donc l'aspect mobile de la guitare et l'aspect vraiment l'outil idéal du troubadour... J'ai tout de suite appris à jouer de la guitare, ce qui me donnait en plus des clés pour travailler la basse. Donc j'ai tout de suite joué les deux. Mais par contre, mon instrument d'amour, c'était vraiment la basse électrique. Ouais.
On a dit que vous aviez commencé la basse à l'âge de 13 ans, donc dans votre chambre. À quel âge vous avez écrit votre premier texte, votre première chanson?
je devais avoir 23 ans, j'écoutais Mathieu Bogart, le premier album de Mathieu Bogart chez moi. J'avais déjà écrit des petits bouts de trucs nuls à chier, et Mathieu Bogart m'a fait vraiment péter un verrou dans la tête. C'était tellement fort son univers, c'était tellement personnel, c'est-à-dire j'avais tellement l'impression de faire une rencontre avec le gars, qu'à un moment j'ai eu un moment de lucidité.
Vous avez conservé ce texte ?
Ouais, c'est le premier, c'est le premier morceau de l'album de Naturalibus. Ça s'appelle Qu'est-ce que tu racontes ? Et j'ai éteint la musique, j'ai pris un papier et un crayon et j'ai écrit ce premier texte. C'était son premier jet, mais par contre, il y avait déjà le contenu en gros. Et puis, Naturalibus, c'était particulier parce que, comme mon papa est un auteur de livres, est un romancier et un historien, et qui nous a fait écouter beaucoup de chansons françaises, etc. Moi, j'étais plutôt le mauvais élève, c'est-à-dire que je lisais pas, j'adorais les chansons et tout ça, mais j'avais pas les codes, j'avais pas les références pour être un auteur dimensionné ou épais. Donc j'avais une énorme appréhension du jugement de mes frères et de mon père.
Alors justement, j'allais vous poser la question, il est dit au début de l'émission que vous avez trois frères et une sœur, vous avez tous fait de la musique ?
Non. Il n'y en a qu'un qui a fait de la musique un an avant moi, qui s'appelle Benjamin.
Oui, donc que deux garçons.
Ouais. Et lui, il a commencé la gratte et le chant un an avant moi. Il était rentré dans ce groupe qui est devenu Avril plus tard. Et voilà, je regardais mon grand frère avec beaucoup d'admiration. C'est avec lui que j'ai découvert mes premiers trucs. Mais avec le groupe Avril, justement, quand on arrivait avec nos petites cassettes, avec mon frère, on faisait écouter ça à mon père, la gueule enfarinée. Mon père, il nous pourrissait, quoi. Il disait, mais les textes, c'est à chier. On était là, quoi ? Il disait, non mais je vois que vous progressez musicalement, je vois que de maquette en maquette, c'est de mieux en mieux, parce que vous apprenez de mieux en mieux à faire de la musique. Mais moi, ça m'amuse pas que mes fils y fassent de la merde. Oh ! Alors nous, on était là, quoi ? De la merde ? On n'en revenait pas du choix des mots qui était accablant et sans issue. Et donc, j'avais très très peur de faire écouter mes chansons après, quand j'ai commencé à écrire pour Naturalibus. Mais le biais que j'ai trouvé à ce moment-là, c'était d'écrire pour deux. Et d'écrire des conversations. Et le fait d'écrire des conversations m'éloignait tout de suite d'une écriture poétique avec des images, des métaphores, de tout ce qui aurait peut-être pu m'exciter à ce moment-là. Mais moi qui voulais chanter des chansons d'amour, j'ai trouvé le moyen de chanter des chansons d'amour avec mes clés, avec mes codes, avec ma manière de parler, avec mes mots en verlan, avec machin, sur mes airs un peu jolis, un peu machin, un peu funk. J'allais dire funky, mais un peu avec l'école noire américaine, enfin bref quoi.
Et j'imagine en plus influencé par vos histoires de cœur de l'époque.
Ouais, bien sûr.
Bien sûr. Dans ces années 20-25 ans, vous aimiez lire. L'amour de la lecture est venu un petit peu après, sur le tard.
Ouais, c'est venu justement à 25 ans, quand j'ai commencé à m'installer à Alfortville, j'ai commencé à lire un peu plus. Mais c'est même aujourd'hui, je lis très peu, c'est incroyable. Enfin, c'est dommage, quoi, en vrai.
Oui.
Parce que Mais c'est marrant, parce que mon père, il nous a jamais mis la pression là-dessus. Il aurait pu... C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup appréhendé son avis. Parce que j'avais l'impression d'être le mauvais élève. Enfin, c'était pas qu'une impression. Mais j'avais l'impression d'être le mauvais élève de la bande, quoi. Mais... Et c'est marrant, parce qu'encore maintenant, je vois qu'il s'en fout. Lui, il a pas... En fait, Dieu merci, il a pas situé notre éventuel talent là-dedans, dans le fait qu'on devait être comme une filiation et de faire lui aussi lire tout Balzac et tous ces auteurs comme Maupassant que lui adorait, et tout ça quoi.
Les textes, donc, les textes d'amour, hein, vous étiez inspiré par vos histoires de l'époque. On va parler tout à l'heure de J'attends un événement, votre dernier album. Comment viennent les textes aujourd'hui ? Sur l'actualité, sur des choses que vous vivez, vous, comment vous écrivez une chanson ? Comment vient l'idée d'une chanson ?
Moi, j'aime bien quand ça part d'une contradiction personnelle. D'ailleurs, c'est pour ça que Naturalibus, c'était super, puisque j'écrivais pour les deux. Donc, j'écrivais pour l'homme et la femme. Ce qui faisait qu'une bonne chanson, pour moi, ça démarrait sur quelque chose où déjà, moi-même, je pouvais défendre deux avis différents, tout en étant convaincu des deux avis. Donc, ce qui me plaît, c'est déjà quand je trouve une dualité chez moi. Quand déjà moi-même, je ne sais pas exactement quel est mon bord, et que je sais que je peux défendre deux avis différents, là, ça m'intéresse d'écrire une chanson. Parce que de toute façon, ça ne m'intéresse pas d'écrire une chanson où mon avis est tout à fait arrêté. Enfin, ça m'intéresse moins.
Guillaume, je vous propose tout de suite une première pause musicale et vous allez nous faire le plaisir de jouer en live une de vos chansons. Alors, bon, je vais me faire plaisir et j'espère comme ça que ça fera plaisir à tous nos auditeurs. J'avoue que j'ai un faible pour l'énième.
Eh bien, c'est parti.
On vous écoute, Guillaume.
Je suis l'énième connard avec ma guitare. Je suis l'énième bouffon avec mes chansons. Encore un qui cherche un miroir et qui dégaine son art. Encore un parmi des millions qui frappe au portillon. Bon bah on va y aller, on va trop délirer, c'est parti pour la chansonnette. Mais je vous préviens tout de suite, j'écris sur cette petite qui transforme les bleus en poètes. Car les chansons d'amour et ce depuis toujours parlent d'une seule et même créature, celle qui a brisé les cœurs de milliers de chanteurs et qui est quelque part dans la nature. Je suis l'énième tétard avec ma guitare. Je suis l'énième couillon qui pense être profond. Encore un qui croit que sa musique a quelque chose d'unique. Encore un qui a envie qu'on le mate, quitte à prendre des tomates. Bon bah je vais balancer car tel que vous me voyez, y a pas plus grand dénonciateur. Attention, j'ai plein de messages, ça va être un carnage où vous pouvez trembler de peur. J'ai un max de dossiers sur les gens haut placés et je le sais de source sûre. Tous ceux que ça concerne voyant pousser leurs cernes viendront me cirer les chaussures. Je suis l'énième relou qu'un avis sur tout. Je suis l'énième blaireau avec des idéaux. Tiens voilà l'autre crevard, l'autre boulet, couplet, refrain, couplet. Voyez comme elle est différente, ma chanson de 3:30. Bon bah papa, maman, sachez que votre enfant, voilà bien 10 ans qu'il m'inquiète. Et puisque je sais tout sur ce milieu chelou, faut que vous deveniez des vedettes. Mais non, c'est pas trop tard, papa prend ma guitare, maman enfile un string clouté. Du rock'n'roll de vieux marchera mille fois mieux que tous ces ados décoiffés. Et faites pas cette tête là, c'est la sextape ou ça, vous allez pas me laisser tomber. Je suis l'énième faussaire qui vendrait père et mère. Mais dans l'ongue fond des tranchées, dans les parquets, les planchers. Je suis le mégalo, l'arriviste, qui se croit en tête de liste. Oui, je sais, je fais toujours trop long sur les présentations.
Bonsoir.
Merci, merci. Alors, je le dis à nos auditrices, à nos auditeurs, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas l'image avec le son, parce que c'est formidable de vous regarder en même temps que vous chantez, parce qu'on a vraiment le visage qui est tellement expressif. C'est tout un jeu de scène, rien qu'avec votre visage, je trouve ça incroyable. Et puis en plus, vraiment, cette chanson est appréciable parce que elle paraît légère, mais elle ne l'est pas tant que ça. Et je crois que ça résume bien Guillaume, cette chanson. Oui. C'est-à-dire Guillaume peut paraître léger, souriant, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est un Guillaume profond qui a sûrement réfléchi sur beaucoup de choses et qui doit beaucoup réfléchir au quotidien et se poser beaucoup de questions.
Oui.
Et ça, ça transpire, mais de façon positive.
Oui, et de toute façon, sur ce disque, je me suis rendu compte que j'avais vachement de chansons où je me tournais en dérision. Et je me suis dit, ben c'est bien. C'est bien parce que ça arrivait à un moment où moi, en 2011, quand j'ai commencé à écrire les chansons de ce disque-là, j'étais en déprime un peu, l'album d'avant, il n'avait pas marché, j'étais triste. Et puis je me cherchais, quoi. Et le fait de faire un album qui soit comme ça, comme petit leitmotiv, l'accomplissement de soi, parce qu'il y a plusieurs chansons qui parlent de ça, il y a une chanson qui s'appelle Lynn Malalouse, l'autre qui s'appelle Un événement, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin. Un événement, c'est vraiment la chanson de celui qui a besoin qu'il se passe quelque chose dans sa vie, même quelque chose de grave en fait. Il a besoin de se faire bousculer par quelque chose. Alors, si c'est plutôt heureux, tant mieux. Mais même, ça peut être quelque chose de malheureux, quelque chose qui lui tombe dessus pour que ça le sorte de ce qu'il est, que ça le sorte de ses cheminements à lui, de ses habitudes, que ça le sorte du pli qui a été pris il y a super longtemps et que t'as beau repasser dessus en mettant du fabulon, et ça change rien. Le pli est pris, et ce depuis longtemps. Enfin voilà, c'est pour ça que je parle de ces chansons-là. Parce que même il y a une chanson qui s'appelle La pluie, je dis tu dans cette chanson comme si je m'adressais à quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que c'est plutôt d'autres gens qui m'ont inspiré cette chanson. Mais en vrai, c'est une chanson qui pourrait me caractériser aussi.
J'ai lu une phrase ce matin sur un autre sujet, mais j'ai envie de vous la lire parce que je trouve que ça correspond à ce que vous êtes en train de dire et je voudrais votre avis sur cette phrase. Celui qui veut vivre finira par avoir des problèmes avec la vie.
Bah c'est sûr que ça s'apprête à réflexion, cette phrase, oui. Mais je sais pas. Moi, je vois des gens qui ont du mal à vivre, justement, à vivre en mode jouisseur. Hein, je veux dire, vivre, de kiffer la vie, quoi. Il y a des gens qui ont du mal parce qu'ils n'ont pas eu l'éducation, ils ont pas. Tout le monde n'a pas l'aptitude à jouir bêtement d'un truc simple et ponctuel. Moi, je pense que la musique et la vie que j'ai menée tout ce temps a fait que je suis un jouisseur. Mais par contre, je suis aussi un introspectif qui se pose beaucoup de questions, qui se remet beaucoup en question et qui a besoin de s'exposer.
Est-ce que vous avez toujours été comme ça ? C'est-à-dire que quand vous êtes rentré dans la vie, à l'âge de 20 ans, vos premières scènes, etc., vous étiez déjà avec autant de questions ? Pas les mêmes forcément, puisque vous n'aviez pas le même âge. On rappelle que vous avez 44 ans bientôt.
Ouais.
Quelles étaient vos questions à l'âge de 20 ans ? Vous aviez peur de la vie ?
Non, pas trop. En fait, c'est vraiment l'âge où je me suis réconcilié avec la vie, parce que j'ai été très, très, très complexé adolescent. Et donc, à ce moment-là, à 18, 19, 20, 21, c'était une époque faste pour moi. Et la plupart des choses que j'abordais me souriaient. C'était formidable. Et puis, j'ai découvert mon pouvoir de séduction. Donc j'avais énormément envie de séduire les femmes, depuis la primaire, quoi. Donc c'était beaucoup trop tôt. Donc
les élèves, la maîtresse, tout le monde.
Ouais, et c'était trop tôt. Je sais que je parlais avec mon voisin de classe. « Hey, t'as vu les filles ?»« Quoi ? Les quoi ? Les filles ? Les filles, mais les filles, c'est nul, mon vieux, qu'est-ce que tu crois ?»« Quoi, les filles, c'est nul ?» Enfin, je voyais bien que j'étais le seul à m'intéresser. Donc ça m'a pris beaucoup trop tôt. Et donc après, il a fallu attendre un peu avant que ça se passe bien et que ce soit pas une suite de déceptions et une suite de trucs qui te rappellent que c'est pas toi l'élu, quoi. Donc à ce moment-là, moi, la période de 20 ans, c'est la période où je me suis mis à jouer de la guitare électrique. On a monté un groupe de funk avec mes copains. Et là, on a chanté des chansons funk, genre d'abord des reprises et puis après des compos. Mais c'était vraiment pour chanter en anglais et faire du funk. Et là, pour la première fois, j'étais chanteur-guitariste.
Donc ça vous a donné une assurance.
Oh, mais c'était un kiff pas possible. Puis je voyais des filles qui me regardaient. Je me disais, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? C'est merveilleux. Enfin bon, de toute façon, il est jamais trop tard. Et j'étais, voilà, ça m'a soulagé. Ça m'a fait faire un peu de la merde parce que j'étais trop ému par les filles que j'étais trop ému par le fait de séduire. Et puis après, on régule, on se pardonne d'être ce qu'on est, etc. Et puis c'est plus tard que l'introspection qui est un peu douloureuse, elle revient. Mais ça m'a pris en fait en quittant à partir de 25-26. Je me suis fait une grosse dépression et c'était bien. C'était bien parce que je me suis bougé le cul à ce moment-là. C'est marrant comme on peut être, pour peu qu'on se laisse pas abattre, même cette période de difficulté extrême et qui était vraiment, j'étais triste, et ben j'en ai un bon souvenir. Parce que j'en ai fait quelque chose, j'ai fait du sport, j'ai fait des chansons.
C'est un tremplin.
Oui, et puis le fait de pas juste être comme une victime en train de se dire « c'est pourri la vie », et ben le fait de m'être bougé et d'avoir recyclé ce truc... Ça a fait que il m'arrive presque d'être nostalgique de cette époque, alors que j'ai pas du tout envie d'y retourner en vrai.
Alors, justement, vous évoquez vos 26-27 ans, et on a dit donc que votre premier projet sorti en 2007, donc Naturalibus en 2007, c'était au tout début de vos 30 ans, 33 ans par là. Mmh. Quel était ce projet ? Donc, un duo.
C'était que des conversations entre un homme et une femme. C'était principalement des chansons d'amour. Et on a mis longtemps à faire le disque. Parce que le projet, il est né en 99. Il est né en 99-2000. Les premières maquettes, elles viennent de là. Le premier concert, il était en juin 2001. Et puis on a fait quelques concerts, surtout à Paris, parce que c'est là qu'on avait nos contacts et nos trucs. Mais on avait trouvé un tourneur qui a rien foutu pour nous. On a trouvé des producteurs qui ont produit le disque, mais vraiment c'était avortement en production. C'était vraiment, c'était hyper dur. Et on a eu des petits coups de chance. On a fait Michel Drucker, on a fait les premières parties de Vanessa Paradis, on a fait première partie de Thomas Dutronc, on a fait 12 premières parties de Julie Ferrier. Donc on avait quand même de la chance parce qu'il y avait des gens qui nous aimaient, qui nous soutenaient. Mais tout ça était tellement décousu sur des années, ça ressemblait pas du tout à une promo solide et qui sert à quelque chose, quoi. Et en plus, on a eu énormément de touches dans les maisons de disques pendant les années 2002-2003. C'était vraiment énormément de rendez-vous dans les maisons de disques pour qu'il y ait personne qui nous branche au final. Donc c'est sûr qu'après, t'as intérêt à avoir de l'humour.
Et donc, vous sortez votre premier disque en guise de bonjour, donc en solo, là sur le coup, en 2011. Là, donc c'est un peu plus récent, il y a 7 ans. Qu'est-ce que ça donne, ce premier disque ?
Eh bien, ça, c'est les chansons que j'ai écrites tout le temps où je faisais Naturalibus. Et donc, il y a 10 ans de chansons pour moi seul. C'était les premières chansons que j'écrivais pour moi seul, en fait. Parce qu'après, j'avais pris la confiance, bien sûr. Et donc... c'est un premier album, c'est-à-dire c'est un peu décousu. C'est le stylistiquement parlant, on a du mal à savoir qu'est-ce qu'il propose.
C'est pas encore l'album de la maturité.
Exactement.
C'est ça.
Exactement. Bah c'est 10 ans de chansons et puis à chaque fois on se dit non mais cette chanson faut qu'elle y soit, tu comprends. Ah non mais celle-là faut qu'elle y soit, c'est sûr. Donc c'est une chanson dont je suis très fier, mais en vrai dans la totalité de l'album il y a quand même, je pense que j'ai manqué de parti pris et d'esthétique sonore forte. Et personnalisé, quoi. Enfin, bref.
Vous vivez vraiment chaque période. Je fais une parenthèse parce que je vous écoute et bien sûr, et je vous regarde en même temps. C'est encore une fois, vous vivez tout ce que vous dites. C'est vous êtes entier. Ça, il y a aucun souci. C'est une personnalité. Guillaume est une personnalité entière. Quand le disque En guise de bonjour sort. C'est pas encore le succès.
Non, c'est pas le succès.
Vous produisez beaucoup sur scène avec ce premier disque ?
Non, pas beaucoup. On fait des concerts, mais à l'époque j'avais un groupe, j'avais 4 musiciens avec moi, donc oui. On était 5 sur scène.
Oui.
Et non, ça a pas décollé comme je souhaitais. Et en plus, ça a été pas bien perçu parce que mon amour de la pop et de la FM, enfin de la FM, je te parle stylistiquement parlant, c'est-à-dire mon amour de la chanson populaire dans son plus simple. Ça n'a pas été bien pris, vu que j'avais beaucoup de gens qui me connaissaient en tant qu'accompagnateur et qu'ils m'accordaient tout un tas d'intégrité, je ne sais pas lesquelles, hein, mais c'est des gens qui s'attendaient peut-être à un truc plus perché, je ne sais pas. Et donc moi, le fait d'avoir fait des chansons assez simples et assez avec des vrais refrains, de l'aspect FM d'une chanson avec un refrain qui se retient, quoi. Moi, j'adore ça. Et donc, je pense que... Peut-être après avoir fait Naturalibus, les gens ils s'attendaient pas à ce que je fasse ça, je sais pas.
Vous avez écrit en dehors de Naturalibus, vous avez écrit que pour vous, jamais pour d'autres chanteurs ?
Si, j'ai un peu écrit pour d'autres chanteurs. C'était pas hyper probant. J'ai écrit un morceau pour Amel Bent. C'était une compo, c'était pas un texte. Et puis j'ai signé un peu pour d'autres gars, mais il y a beaucoup de projets qui n'ont jamais vu le jour et ça m'a déprimé. Et Bruel qui produisait un super chanteur que j'ai adoré qui s'appelait Jérôme Gallo. Et j'ai écrit 15 titres. Ils ont failli me donner la réal de l'album, etc. C'était il y a 10 ans. Et il y a plus de 10 ans, 12 ans. Et j'étais très excité par ce dossier. Et le truc est jamais sorti. Genre, ils ont fabriqué les disques et les disques sont restés dans les cartons. Le truc est jamais sorti. Il y avait 2 clips en circulation, plus 2 morceaux qui tournaient sur les radios et tout. Le truc est jamais sorti. Donc, au bout d'un moment, quand on bosse sur des dossiers comme ça qui nous prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et que ça voit jamais le jour, on se dit la prochaine fois, je m'abandonne pas comme ça sur un truc. Tiens, fais-lui des chansons. Là, tu te dis la prochaine fois, faut que ça tombe vraiment sur un truc où je sois vraiment plus que convaincu, quoi.
Guillaume, vous nous faites un deuxième morceau pour
ouais,
le plaisir.
Volontiers.
Alors, Palpin Boy.
Ouais.
Merci Guillaume.
Mon petit Palpin Boy, tu sais, on va causer. Parce que ta mère et moi, on est au bout. Avec nous tes parents, c'est vrai, c'est bon de se câliner. Mais sur ce qu'on connaît pas, c'est pas de bon goût. Faut pas que tu tires le string des petites en legging quand elles font leur jogging, mon tout petit palping. Tous tes profs se plaignent de toi et de tes mains. On m'a dit que tu massais ta voisine. Maintenant ils te craignent, tu vois, y compris tes copains. Personne ne te suit à la piscine, que ce soit dans le métro ou quand tu parles au dirlo. Faut que tu tiennes un carreau, tu gardes tes mains dans le dos. Mon fils, il faut que tu cesses donner des caresses en tant que tactile man. Je sais ce que c'est, moi le touching ça me connaît. Mon fils, trop de tendresse dissimule une immense détresse. Alors mon palping boy, qu'est-ce qu'on ferait si tout le monde comme ça se touchait? Palping boy et tactile man, palping boy et tactile man. Quand tu joues à la guerre, y'a que des scènes d'amour. Toutes tes figurines sont dévêtues. Tes pirates et tes corsaires n'ont pas besoin de bravoure, puisqu'ils ne se sont jamais battus. Pour combler tes demandes, il faudra que tu attendes d'avoir affaire aux grandes pour faire un palping land. Mon fils, il faut que tu cesses donner des caresses en tant que tactile man. Je sais ce que c'est, moi le touching ça me connaît. Mon fils, trop de tendresse dissimule une immense détresse. Alors mon palping boy, qu'est-ce qu'on ferait si tout le monde comme ça se touchait? Palping boy et tactile man, palping boy et tactile man, palping boy et tactile man.
Merci au public du studio et puis surtout merci Guillaume, merci. À quand elle remonte cette chanson ?
Je l'ai écrite en 2011, j'étais en Californie, j'étais chez un copain qui vit à San Francisco. Je suis parti 2 semaines chez lui pour écrire des chansons. Je suis très peu sorti et j'ai acheté cette guitare.
D'accord. Voilà. Et on n'a pas du tout parlé justement des voyages, vous voyagez beaucoup ?
Non, c'était la seule fois où je me suis payé un billet.
Oui.
Ouais. Et d'ailleurs, c'était assez marrant cette période. Parce que, en fait, il y a le chef d'orchestre de Charles Aznavour qui m'a appelé l'été 2011. Et il m'a dit, je t'ai vu jouer avec Gotener et c'est toi que je veux sur Aznavour. Je dis, bah oui, mais je suis engagé, Gotener. Il dit, bah oui, mais tu seras payé double. Et je dis, ah bon. Ah, et puis tu vas jouer dans les plus beaux, dans les plus beaux, les plus belles salles du monde. On va aller jouer à Rio, à Los Angeles, à New York. Tu seras dans les plus beaux hôtels du monde. Super, ça me touche beaucoup. Il me dit, bon, de toute façon, c'est toi que je veux, etc. Alors on discute au téléphone. Jusqu'à ce que je lui dise, ah oui, mais je lis pas la musique. Ah ! Je dis, non, je lis pas la musique. Mais comment ça, tu lis pas ? Je dis, bah tu vois les partitions, bah je les lis pas. Il me dit, mais c'est pas vrai, tu lis pas du tout ? Je dis, ben si, j'ai des bases, puisque j'ai travaillé là, l'instrument avec Rémi Schodheim, mais je peux pas découvrir un morceau en le lisant, quoi, pas dans la foulée. Faut que j'entende le truc pour le jouer. Alors il me dit, bah non, alors. Parce qu'en fait, avec Aznavour, c'est pas possible. Il arrête pas d'envoyer des partitions tout le temps, avec des nouveaux morceaux, enfin, tout le temps, quoi. C'est tout le temps sous partition. J'ai dit, bah tant pis. Ok, tant pis, merci, au revoir. Bah écoute, merci d'avoir pensé à moi. Ciao, ciao. Et juste après, il y a Richard Gotener qui tombe malade de la gorge et qui annule toute la tournée. Et donc, moi, j'avais du boulot avec Gotener. Et il avait des polypes sur les cordes vocales. Il avait besoin de se soigner et de se rééduquer. Et donc, il a annulé toute la tournée qui restait jusqu'à la fin de l'année. Et donc, je venais de foirer Aznavour sur un manque de bluff de ma part. Et d'ailleurs, je ne regrette pas, j'ai horreur de faire les choses au bluff. Mais par contre, je me retrouvais sans travail. Et j'avais fait la musique d'un court-métrage d'un copain que j'avais jamais déposé. Et mon copain, il m'a appelé et il m'a dit « Est-ce que t'as bien fait le dépôt de la musique de mon court-métrage ?» J'ai dit « Ah non, pas vraiment !» Et il m'a dit « Bah, faut le faire, mon vieux, parce que bientôt, ce sera trop tard. » Et voilà. Et donc, j'ai touché beaucoup d'argent. Enfin, j'ai pris 36 000 euros en deux fois par la SACEM parce que j'ai fait la musique de ce court-métrage qui est passé dans le monde entier. Et donc, il générait beaucoup de droits. Et donc, je me suis retrouvé, comme on aimerait être parfois, avec du temps et de l'argent. Et ça m'a déprimé. J'en ai rien fait. Je me suis dit, je vais prendre un billet, je vais voyager. Et donc, je voulais aller voir mon copain qui habitait en Californie. Et puis je voulais faire le baroudeur, mais j'ai même pas eu le temps de baroudeur. J'avais trop de copains. Mon copain, il m'a dit, mais attends, mais je suis steward, je vais t'emmener avec moi en avion. Alors, j'ai voyagé en business class, ça m'a coûté 150 euros. Ça voulait rien dire. Je voulais faire un peu l'aventurier, j'ai pas pu. Je me suis retrouvé chez mon copain Chili à San Francisco et j'ai chillé chez lui pendant 15 jours et j'ai écrit des chansons. C'était super d'ailleurs, c'était une période formidable, mais je déprimais pas mal. D'ailleurs, quand je suis rentré, j'ai encore plus déprimé. Et puis c'est là que tout sont nés, toutes ces chansons, que j'ai commencé à maqueter l'album à la maison et les maquettes sont devenues le disque parce qu'au bout d'un moment, mes maquettes, je me suis dit, ok, je vais faire un disque qui coûte pas cher et je vais demander à un copain de mixer ce que je fais chez moi.
Alors, j'ai écouté bien sûr ce CD-là que j'ai devant les yeux, J'attends un événement. Et puis, je me suis amusée aussi à aller sur YouTube pour regarder les vidéos. Et j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé les vidéos comme les chansons, c'est frais. Et puis, ça a un petit côté désuet. C'est désuet, on a l'impression que c'est fait avec les copains, avec un petit budget, et puis ça donne quelque chose de drôle, de chaleureux, on a envie, on les voit une fois, on a envie de les remettre en se disant bah, c'est drôle. Surtout, je reviens encore sur la chanson Énième, même le clip m'a beaucoup amusé. J'ai trouvé très sympa ce changement de décor à chaque couplet. J'ai trouvé que c'était très très sympa, très bien vu.
C'est la seule fois que j'ai bossé avec ce mec qui s'appelle Émile Henny, qui est très très bon. C'est lui qui a fait le clip de Énième. C'est un très très bon gars. Ouais, c'est la seule fois où j'ai bossé avec lui.
C'était vraiment un clip très très sympa et j'invite nos auditrices et nos auditeurs à vite aller se connecter sur YouTube pour regarder celui-ci et pour regarder les autres et surtout écouter les paroles de vos chansons. Vous avez 40 ans en 2014.
Ouais, exactement.
Un premier bilan de vie pour vous ? Qu'est-ce que ça a représenté pour vous ces 40 ans ?
Moi, ça m'a un peu détendu, parce qu'en fait, donc en 2011, j'ai 37. Ouais, c'est ça. En 2011, j'ai 37 et je déprime. Et surtout, par rapport au fait que j'ai pas d'enfant, pas de femme, je me dis, t'es vraiment un loser. Donc je déprime à mort en me disant, en faisant justement un genre de bilan, mais c'est le bilan de celui qui voit arriver 40. Hein. C'est le bilan de celui qui se dit, bah là, dans 2 ans, j'ai 40 ans et mon gars, où est-ce que t'en es, quoi? Et moi qui ai toujours voulu des enfants, etc., je me disais, mais c'est pas vrai, t'as pas d'enfants, t'es nul. Donc je déprime et puis je me dis, moi qui ai eu quand même des belles histoires d'amour avec des meufs formidables, je me suis rendu compte que j'ai passé des fois des années avec des gens en freinant des cas de fer. En freinant, quoi. Mais comment on passe autant de temps avec quelqu'un quand tu freines tout le temps? Quand l'autre, elle vient avec ses envies, ses projets, la manière qu'elle peut avoir de voir deux et de se projeter dans le deux. Et que toi, t'es là, oui, mais non, mais tu sais, moi, je... Et tu te rends compte que tout ce temps-là, peut-être t'attendais à autre chose, quelque chose, tu sais même pas à quoi ça ressemble. En tout cas, t'attends à autre chose, tu sais pas. Et donc, à partir de là, j'ai arrêté de me rêver autrement que comme j'étais. Et ça fait du bien. Et en ça, merci les 40 ans. C'était super. Parce qu'entre-temps, j'ai rencontré une meuf formidable avec qui je suis resté 2 ans. Et c'est elle qui m'a accompagné dans la quarantaine. Mais c'était super. Et justement, je me suis dit, la prochaine fois que je vis une belle synchronisation avec une femme, il faut absolument que je le vive fort. Au point de se blesser. Justement, l'amour n'a de sens que quand on met les épaules dans la pente et qu'on la descend, la pente, et qu'on la prend. On la fait vraiment. Et oui, on peut se faire mal à l'arrivée, mais en vrai, tu ne peux vraiment kiffer la descente que s'il y a le risque de se faire mal à l'arrivée.
Vous avez conscience du temps qui passe ?
Je m'efforce de pas trop en avoir, parce qu'à chaque fois que je me retourne, je me dis, mais j'ai complètement oublié de vieillir. À chaque fois, je préfère pas trop avoir conscience du temps qui passe. Je préfère tracer la route et surtout pas trop regarder en arrière, sachant que, bon, comme j'ai jamais fait de gros tubes et de choses qui me marquent dans le temps, j'ai l'impression de repartir de zéro à chaque fois. C'est un peu vertigineux, mais là, pour le prochain album, je peux repartir sur ce que je veux, quoi.
Vous avez commencé à écrire des chansons pour le prochain ?
Oui, j'ai pas mal de trucs dans ma besace. Oui. Mais en ce moment, c'est la période du puzzle. Là. Genre, on a, On a étalé toutes nos petites idées. Pour une fois, j'ai plus de textes que de musique. Avant, c'était un peu l'inverse. Donc là, j'ai de la matière, donc j'ai un peu réuni tout ça là, pendant les vacances de Noël. Là. J'ai commencé à maqueter des trucs. Mais après, je pense que là, dans au stade où j'en suis, je pense qu'il faut que ce soit un stade de joie et d'amusement et de lâchage et de rien à foutre de à quoi ça va ressembler. Il faut vraiment avoir la matière. Et puis après, une fois qu'il y a des trucs qu'on aime vraiment et qu'on se dit, voilà, ça me plaît beaucoup, ça, voilà. Ensuite, après, on élague et puis on se dit, ça, je le ferai plus tard, machin. Puis après, on canalise un peu. Enfin, j'espère travailler dans ce mode-là.
Mais vous avez le temps parce que vous êtes souvent sur scène un peu partout en France, j'imagine. Vous faites des tournées.
Ouais. Oui. Ben, je sais pas, mais j'ai toujours réussi à écrire mes chansons tout en accompagnant d'autres gens. En ce moment, c'est plus difficile. Là, en fait, cette année, c'est plus laborieux pour moi d'écrire. Laborieux au sens propre du terme, c'est-à-dire l'aspect rigoureux de. Mais aussi parce que mes exigences montent, même si mes capacités, elles, pas trop. Oui. Mes exigences continuent de monter, donc. Après, il faut que je me procure des choses qui m'excitent assez pour que je me dise ça vaut le coup. Parce que je garde quand même dans un coin de ma tête l'idée de me dire si je fais un truc qui est pas assez solide, qui est pas assez fort, ou c'est juste la joie de me procurer de me mettre devant les gens, il vaut mieux pas que je le fasse. Il vaut mieux que je monte un spectacle avec des reprises ou des machins. Enfin voilà, que je fasse pas mes chansons pour faire mes chansons quoi. C'est sous réserve de trouvailles quoi.
Vous aimez toujours être toujours autant qu'à l'âge de 20 ans, être sur scène.
Ouais, grave. Et puis maintenant, j'ai de la bouteille, c'est super. Avant, j'avais peur de rien toujours. Hein. Je sais même pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais j'ai jamais eu peur de quoi que ce soit sur scène. Je me sentais tout de suite très bien. Quoi. Je me sentais vraiment à ma place.
Quand vous vous produisez, on a les dates. Si on habite dans une ville ou dans une autre, on a les dates de vos passages sur votre site.
Ouais, tout à fait.
Tout est indiqué.
Ouais, tout à fait.
Comment on fait pour se procurer votre disque, Guillaume ?
Eh ben, pour l'instant, c'est Internet, ou alors il faut venir me voir sur scène, parce que c'est là que je vends mes disques en direct. Mais sinon, le disque, ça se vend plus trop. Donc, faut s'appeler Vianney pour trouver mon disque dans un magasin de musique, dans un magasin de un supermarché. Oui. Donc après, où est-ce qu'on achète des disques ? J'en sais rien. Là, par exemple, ici à Toulouse, j'ai vu plus de d'endroits pour acheter des vinyles, quoi. Donc peut-être faudrait que je fabrique un vinyle de mon disque pour
c'est
qu'on puisse
ça. L'acheter. Ben oui.
Sinon, c'est les plateformes habituelles, hein, les iTunes, les Spotify, Deezer.
Enfin, vous, Guillaume, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est de vous voir chanter autant que de vous écouter chanter, parce que je le redis encore une nouvelle fois à l'antenne, tout le visage travaille en même temps que la bouche qui chante.
J'ai essayé de gommer ça.
Ah, il faut surtout pas, c'est vous. Ah, il faut pas.
Trop. En fait, non, il quand faut je pas. Me voyais à l'époque de Naturalibus et tout ça, je me disais, mais calme-toi. Surplus d'énergie, quoi. Adrénaline, man, quoi. Comme si j'étais de l'adrénaline en barre. Alors après, je me suis dit, faut que tu te calmes. D'ailleurs, mon grand frère Jérémy, qui travaille dans le théâtre, il est venu voir les tout premiers concerts que je faisais dans cette formule solo. Donc, je défendais les chansons de cet album. Et donc, mon frère, qui est un assassin de première, il arrive, il me dit, c'est bien tes chansons. Il me dit, j'aime beaucoup le biais que t'as pris là sur les nouvelles et tout, c'est super. Il me dit, avant, tu déployais une énergie de fou furieux sur scène, mais c'était pour cacher la misère un peu. J'ai dit, ah, merci, sympa. Il me dit, mais c'était bienvenu. Peut-être on avait besoin d'un truc très scénique comme ça pour dissimuler tes faiblesses. Merci, super sympa. Et il me dit, aujourd'hui, tes textes, ils sont bien. Alors, ne fais pas le mec marrant. Tes textes sont marrants. Fais pas le mec rigolo. Bon, alors je me suis dit, quel enfoiré. Bon, bref. Et je lui ai dit, bon, il faut bosser, je vais venir chez toi. Et je me suis pointé avec ma guitare chez mon frère. Et je lui ai chanté mes chansons. Et on a travaillé. On a travaillé l'interprétation, on a travaillé les différentes manières de chanter tel ou tel truc. Et en vrai, c'était surtout un travail pour revoir le truc à la baisse. Pour pouvoir avoir plus de maîtrise d'un truc d'un pouvoir d'humour, quoi. Si moi qui a envie de faire rire encore, Il faut que j'arrive à gérer et que je déploie pas plus d'énergie que ce qu'il faut, quoi. Mais bon, j'ai encore gardé toutes mes mimiques de gueule.
Le théâtre, ça ne vous a jamais attiré ?
Si, complètement. Si. D'ailleurs, ça m'attire encore maintenant, j'aimerais beaucoup. Mais il y a la danse aussi. J'ai pris des cours de danse moderne jazz là, il y a un an et demi. Et en rentrant dans le local, je suis rentré dans le local, j'ai vu les bars avec les miroirs, le parquet et tout. La joie. Et moi, dans mon jogging et tout. Toutes les meufs, elles étaient là. « Oh, il y a un mec dans le cours. Oh, génial, reste !» J'étais le seul mec du cours. Mais comment j'ai kiffé.
Et le mec est resté ?
Le mec est resté 6 mois uniquement. Mais bah parce qu'après, j'étais trop occupé, je ratais tous les cours, etc. Puis après, on paye un abonnement auquel on ne va jamais. Et puis, au début, elle m'a dit, ouais, il n'y a pas de représentation cette année. J'ai dit, cool, très bien, parce que moi, j'ai besoin d'apprendre. Et alors, finalement, il y avait une représentation. Je me suis esquivé comme une merde. Et mais non, par contre, j'ai un peu travaillé la danse. Et la danse, moi, c'est mon premier rapport à la musique. Vraiment, je suis un amoureux de la danse. Ça me fait pleurer de voir des danseurs, quoi.
On vous verra peut-être danser dans un prochain clip.
Ouais, je danse un peu dans le clip de ma petite loupiote. Et puis, je danse aussi une petite chorégraphie dans l'île Malalouse. Une petite chorégraphie dans la rue. Ah non, et puis, je danse quand même sur les marches dans l'île Malalouse. Je danse tout seul sur les marches des quais, là. Non, non, mais vive la danse, hein. Voilà, je danse timidement parce que je suis pas un vrai danseur, j'ai pas les codes, je suis pas un vrai danseur. Mais par contre, pour moi, c'est
inclus. Vous faites plaisir.
Ah ouais, c'est inclus dans le forfait de danser.
C'est tellement le principal.
Ouais.
Guillaume, c'est vrai qu'en préparant l'émission, je vous avais dit les chansons que j'aimerais entendre. Alors, il y en a une que j'ai pas citée. Je voudrais savoir s'il est quand même possible de l'entendre. C'est votre prise de Brel.
Ah ouais? Et est-ce que vous voulez mettre le... Non, pas le
non,
disque,
vous...
que je la joue.
Ouais, ouais. C'est possible.
Ouais. Bah, normalement, en fait, là, je m'accompagne avec mon petit machin. J'ai mon petit boucleur, mes petites graines et tout. Donc, je ne vais pas pouvoir faire tous les arrangements qui vont avec. Mais je peux vous faire la chanson, ouais.
Merci, Guillaume.
D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, et lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits, avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin, dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, quel œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie. Et puis à l'autre, carotte dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Il faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis il y a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, y'a la moustache du père, qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis y'a la toute vieille, qu'on finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ses pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, il y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans et qu'il fera bon y être. et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais tué de chat, ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié, ou ils sentaient pas bon. Mais enfin ils veulent pas, mais enfin ils veulent pas. Parfois quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement, alors moi je la crois monsieur, pour un instant seulement. Parce que de chez ces gens-là, on s'en va pas, on s'en va pas. Mais il est tard monsieur, il faut que je rentre chez moi.
C'est toujours délicat de s'attaquer à un monument comme Brel, et je dis bravo.
Merci Irène.
Là, rien d'autre.
Merci beaucoup.
Guillaume, quels sont vos projets pour demain ?
Écrire des belles chansons et revenir ici les chanter.
Oh, avec grand plaisir.
Bah oui, souhaitons-le fort.
Oui, très fort. Vous êtes donc, on l'a dit, vous vivez dans la région parisienne. Vous êtes venu passer quelques jours à Toulouse, vous y êtes produit, au Bijou et dans d'autres salles, je crois.
Au Taquin, au Bijou, à l'espace Bonnefoy,
oui.
L'espace Sénéchal aussi. Et voilà, dans toutes ces salles que je découvre, parce que moi je suis un peu vierge d'infos ici, j'étais venu très ponctuellement jouer avec d'autres artistes.
Mais... Voilà, j'allais vous demander, c'était la première fois, non, apparemment la deuxième fois que vous veniez à Toulouse.
Sous mon nom, c'était la première fois.
C'était la première fois. Ouais. C'est une ville qui vous a séduit ?
Oui, complètement. Ouais.
Oui ?
Oui.
Ben vous avez eu le temps de vous y balader un petit peu ?
Pas tant que ça, mais en plus, il y a eu des jours où il faisait un peu beau, donc je me suis un peu baladé les jours où il faisait beau, et c'est hyper agréable d'être là, c'est sûr.
Oui ? Ouais. Vous repartez quand ?
Je repars après-demain matin.
Mais on vous reverra.
Je le souhaite fortement.
Oui, nous aussi. Alors,
je le souhaite activement.
Deux petites secondes, excusez-moi, les joies du...
On me dit dans l'oreillette.
Que c'était dans le cadre de Détour de Chanc.
Voilà, l'oreillette a parlé, c'était plus simple parce que je n'arrivais pas à lire l'oreillette.
C'est vrai, c'était dans le cadre de Détour de Chanc, le festival.
D'accord, oui. Ok.
C'est grâce à eux que je suis là.
Bon, en tout cas, c'est une bonne idée et puis c'était une jolie rencontre. Je vous remercie.
Bah, merci d'avoir fait cette émission. Parce que c'est vous qui m'avez interpellé au moment où on venait faire l'émission de Christian il y a une semaine. Et merci de me donner autant de temps.
Ah oui, mais c'était très égoïste au départ. Parce que j'avais vraiment envie de vous découvrir et de vous faire découvrir. Parce que je ne vous connaissais pas et c'était un tort. Voilà. Est-ce que pour refermer cette émission, on a le droit à une... Je suis gourmande, hein, une toute petite dernière chanson, Guillaume, s'il vous plaît.
Il n'y a pas de souci, moi les chansons, c'est ce que je sais faire.
Alors, on vous écoute.
Et alors, quoi comme chanson ?
Ce que vous voulez.
Alors, je vais faire un autre truc qui est interdit, et particulièrement ici. Parce que comme j'ose chanter Jacques Brel en Belgique, ici, j'ose chanter Claude Nougaro.
Waouh.
Bah, Claude Nougaro, c'est un petit peu un génie, quoi. C'est un patron, quoi. Donc, faut pas s'en priver.
C'est un Toulousain.
Et c'est un Toulousain qui est devenu un peu un drapeau pour Toulouse. Et absolument. Vous avez de la chance, parce que vous auriez pu être plus mal servi.
Certainement.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma. Sans pognon et sans caméra, Bardot peut partir en vacances ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine un grand format, voilà comment mon film commence. Souriant je m'avance vers toi. 1m80, des biceps plein les manches, je crève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras, le lit arrive en avalanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma.
Mais quelle ambiance dans ce studio !
Merci, merci Guillaume.
Merci.
Nous voilà déjà à la fin de l'émission. Je vais simplement relire 2 phrases de votre site qui vraiment vous résument. Je ne dirais pas mieux que ce qui est écrit. Alors je vais bêtement les relire parce que c'est tout à fait vous. Guillaume déborde d'énergie et de rythme. Ses chansons ne pouvaient en être autrement. Elles tanguent entre premier et second degré, entre gravité et légèreté, entre paillettes et charentaises. Guillaume Farley est-il un romantique ? Non, c'est un sentimental. Il a peur des mots d'amour galvaudés et saillants. Il préfère de loin raconter des histoires réelles, urbaines, sans victimes ni coupables. C'est vous, c'est tout à fait vous. Merci, merci,
merci
beaucoup.
Irène.
Au revoir Guillaume.
Au plaisir.